Paso doble.
Paso doble.
Lundi, livre.
Bonjour tout le monde et nous entamons la dernière semaine de la saison de Pas au Double. Et avec vous, Auriane Jeancourt. Bonjour Auriane.
Bonjour Tofik.
Et merci d'avoir accepté notre proposition de faire une sélection de livres à emporter avec soi cet été à la plage, à la montagne, à l'étranger ou même chez soi si vous ne prenez pas de vacances cette année comme moi. Allez. Et on commence par un roman américain, L'affaire Emmett Till.
Oui, de John Edgar Wideman. Je me suis un peu arraché les cheveux quand vous m'avez demandé qu'est-ce qu'il faut lire absolument cet été. Non pas parce qu'il n'y a pas eu de très grands livres qui ont été publiés, il y en a eu beaucoup depuis janvier 2017, mais parce qu'après cette année si politique, après cette année si mouvementée, après Trump, après les élections présidentielles françaises, eh bien je me suis dit que lire. Et je me suis dit que John Edgar Wideman, qui est cet immense écrivain noir américain, qui écrit depuis 40 ans, serait sans doute une des personnes à lire en premier. Parce que voilà, donc je l'ai dit, il écrit depuis 40 ans, il écrit beaucoup sur sa ville où il est né, Pittsburgh, sur son histoire relativement tragique puisque son frère a été condamné et envoyé en prison, son fils
aussi, oui.
A été condamné et envoyé en prison. Donc il a toujours pensé les marges de la société et la place, sa place à lui d'écrivain poète parce qu'il a un style extraordinaire. Dans cette société américaine de violence, de criminalité et de brutalité aussi envers les Noirs. Et donc là, il revient sur l'affaire Emmett Till. Ce n'est pas seulement un fait divers, l'affaire Emmett Till. C'est l'un des grands scandales de l'histoire américaine de ces 60 dernières années, puisque ça se passe au début des années 50. Et Emmett Till est un jeune garçon noir qui, à 14 ans, qui va dans le sud pour voir une partie de sa famille et qui, à peine descendu du train, parce qu'il a soi-disant regardé une femme, mais on ne saura jamais s'il l'a fait ou pas, est enlevé par une bande de blancs racistes, battu à mort et jeté au fleuve. Et le plus grave dans tout ça, c'est que les meurtriers d'Emmett Till vont par une cour donc de ce sud des États-Unis être relâchés, ne vont pas être condamnés. Et donc c'est une des grandes affaires qui ensuite va jouer un grand rôle dans le débat sur les droits civiques américains. Mais Wideman ne se contente pas de raconter cette affaire, de se scandaliser de cette affaire. Il va plus loin, il remonte à Louis Till, qui est le père d'Emmett Till, et qui lui aussi est mort, a été condamné par l'armée américaine en 45 parce qu'il aurait peut-être, enfin il a été condamné pour ça en tout cas, violé des Italiennes alors qu'il était envoyé en Italie comme soldat américain. Et donc il va revenir sur cette condamnation, faire la comparaison entre les deux et aussi face à la situation des Noirs américains d'aujourd'hui. Et donc cette manière de se replacer dans l'histoire, de mélanger le présent, le passé des différentes époques va nous donner un tableau totalement saisissant de qu'est-ce qu'être noir américain au XXe et au XXIe siècle.
L'affaire Emmett Till de John Edgar Wideman, c'est paru chez Gallimard, d'ailleurs récemment. On passe à un autre roman qui va nous faire voyager, pour celle qui est assise dans le noir à m'attendre.
Oui, Antonio Lobo Antunes. Alors, vous savez, pour moi, Antonio Lobo Antunes est un des trois plus grands écrivains européens vivants. Donc, il faut quand même le dire. Il devrait être étudié dans tous les lycées, dans toutes les universités. Et il l'est en partie, heureusement. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que cet homme continue à écrire. Bon, il n'est pas si vieux, hein. Il a 70 ans. Il continuera à écrire encore beaucoup. Je l'espère. Pour celle qui est assise dans le noir à m'attendre, c'est un roman de vieille dame. Et comme souvent, les romans de vieille dame sont de très grands romans. Finnegan's Wake est un roman de vieille dame. La recherche du temps perdu est en partie un roman de vieille dame. Donc, on commence par cette voix de vieille dame, cette femme qui est seule dans son appartement à Lisbonne et qui parle. Elle parle toute seule, elle parle à son passé, elle parle dans cette langue musicale unique de Antonio Lobo Antunes. Et elle va parler à ses fantômes, surtout puisqu'on comprend petit à petit que cette femme est sans doute atteinte d'Alzheimer et que sans doute elle confond le passé et le présent et que sans doute ces gens qu'elle voit et qui ressemblent beaucoup à ses parents ne sont peut-être pas ses parents et que sans doute la femme qui vit avec elle et qui est sa garde malade, elle lui attribue des rôles qui ne sont peut-être pas les siens. Donc c'est le pouvoir unique de la littérature, de pouvoir faire vivre comme ça un esprit malade, parfois heureux, parfois malheureux. Et croyez bien que moi, j'ai beaucoup lu de reportages, comme nous tous, sur Alzheimer, sur la solitude des vieux, etc. Et rien n'est aussi fort que ce roman, pour dire.
C'est d'autant plus poignant que cette dame assise dans le noir a été une vedette.
Oui, absolument. C'était une actrice de théâtre. Et elle raconte ça, elle raconte, on voit comment est-ce que ses maris, comment est-ce que les gens du théâtre de Lisbonne apparaissent et disparaissent dans ses souvenirs, et son rapport aux hommes est surtout extrêmement drôle, parce qu'il y a des passages extrêmement drôles.
C'est vraiment quelque chose, un très très beau roman sur qu'est-ce que la mémoire, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce qui reste d'une vie.
Oui, absolument. Et qu'est-ce qui reste, une mémoire en déroute, absolument.
Alors, c'est édité en France, c'est plutôt bien traduit, hein.
Et
c'est
édité... mais par Dominique Nivellet, qui est un très très grand traducteur.
Et pour celle qui est assise dans le noir, à m'attendre, d'Antonio Lobo Antunes, c'est édité ici en France chez Christian Bourgois. La voix de Bonga qui nous accompagne ce matin, qui nous accompagne, c'est-à-dire... Nous sommes en compagnie d'Auriane Jeancourt pour la sélection des livres de l'été. Nous avons parlé de l'affaire Emmett-Till de John Edgar Wideman. Pour celle qui est assise dans le noir à m'attendre, d'Antonio Lobo Antunes, très beau roman paru le mois dernier chez Christian Bourgois. Et là, on passe à Moi, Arnold Nivenson de Sam Savage. Ça se prononce comment?
Oh, Sam Savage, vous savez, je suis pas plus américaine que vous, hein. Mais oui, alors j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est un livre qui est paru il y a 2 mois. Alors c'est un petit livre, c'est extrêmement drôle. On quitte la mémoire embrumée du personnage central de Lobo Antunes et on trouve aussi une douce folie, mais souvent les doux fous font de très beaux personnages. Donc là, c'est un homme qui est chez lui, c'est un collectionneur, il est chez lui, quelque part en Amérique. Et alors, il ne sort plus de chez lui, mais il parle avec ses tableaux. Et donc, il décrit tout ce que c'est qu'un monde contemporain, un monde de l'art contemporain qu'il a connu dans les années 60, 70.
Et qu'il déteste aujourd'hui.
Et qu'il déteste, et il le déteste d'autant plus. Et c'est d'autant plus drôle que lui a essayé d'être artiste. Mais il dit, vous savez, j'ai même pas réussi à être un artiste médiocre. J'ai été en dessous de l'artiste médiocre, parce que l'artiste médiocre, au moins, il s'adresse aux gens médiocres, et dans ce cas-là, tout le monde est content. Il dit non, moi j'étais un grand artiste raté, c'est quasiment ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire qu'on veut aller très haut, et puis on saute un tout petit peu, et on retombe lourdement sur le sol. Donc, il y a évidemment une certaine mélancolie dans ce rapport à lui-même, mais en même temps, c'est tellement drôle.
Alors, c'est quelqu'un qui est venu à l'écriture très tard.
Oui, Sam Savage, vous savez, on dit toujours qu'il a exercé tous les métiers. Il était réparateur de mobilettes, mais il a surtout été professeur d'université. Et donc, il a enseigné la littérature toute sa vie. Puis, à 50, 60 ans, il s'est dit, oh, ben, moi aussi, je vais écrire. Et donc, il a écrit. Et ce deuxième livre, cette autobiographie d'un grignoteur de livres, merci, a eu un très grand succès parce que c'est extraordinaire comme idée.
Moi, Harald Nilsson, donc le dernier, est édité chez Notabilia, c'est de la collection Noir sur Blanc. On passe à une réédition, cette fois-ci, L'esthétique de la résistance de Peter Weiss.
Oui, alors ça je suis très contente qu'on en parle parce que Peter Weiss est partout en Europe un des monuments de la littérature d'après-guerre et en France j'ai l'impression qu'il est plus méconnu. Peter Weiss, c'est un grand nom de la littérature documentaire. Il a notamment écrit, il a assisté au procès d'Auschwitz. Il a écrit quelque chose sur le procès d'Auschwitz. Vous voyez, il a fait toute cette littérature documentaire qui est tout à fait reconnue. Mais l'esthétique de la résistance, c'est autre chose. Alors, ça part évidemment, c'est son grand œuvre. Hein, c'est un livre énorme qui fait entre 600 et 700 pages. Et il suit les résistants. Les communistes, tels que lui l'a été, ceux qui ont cru, comme Brecht l'a été, ceux qui ont cru en Allemagne dans les années 30 qu'il fallait quitter l'Allemagne et qu'il fallait partir, notamment en Suède. D'ailleurs, l'esthétique de la résistance se passe en partie en Suède. C'était des intellectuels, c'était des hommes politiques, c'était des gens courageux et qui ont cru au communisme pour résister face au nazisme, évidemment pas en Allemagne, mais un peu partout en Europe. Et donc, il raconte la vie de ces gens-là, leurs discussions passionnées, incroyablement idéologiques, et puis évidemment ce qui se passe après-guerre, c'est-à-dire l'expérience de la RDA et la désillusion petit à petit face à l'URSS. Il raconte ça avec une grande verve, une puissance poétique et une puissance politique qui fait de Peter Weiss vraiment un grand témoin du siècle, comme peuvent l'être certains grands écrivains européens.
Donc, nouvelle traduction aux belles lettres.
Absolument.
Et on va terminer par un classique, Carson McCullers. D'ailleurs, c'est la couverture du numéro d'été, du beau numéro d'été de Transfuge, Auriane Jeancourt.
Oui, alors Carson McCullers, bon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est vraiment l'écrivain, on le sait, au moins depuis L'Effronté, filmé par Claude Miller, et puis avec cette incroyable prestation de Charlotte Gainsbourg, donc L'Effronté, adaptation d'un roman de Carson McCullers, Frankie Adams. Et donc on sait au moins depuis L'Effronté en France à quel point Carson McCullers est l'écrivain de l'adolescence. Parce que il faut quand même savoir que avant qu'elle commence à écrire Frankie Adams, c'est-à-dire avant les années 40, l'adolescente américaine, c'était la gentille jeune fille en jupe blanche et le garçon va en guerre. Et tout d'un coup, il n'y avait pas encore, quand elle a commencé à écrire, il n'y avait pas encore la trappe-cœur. L'adolescence, ça n'était pas cette folie, ça demeurait un territoire incroyablement inconnu. Et tout d'un coup, Carson McCullers lui donne voix, lui donne corps, lui donne pensée. Et ça, c'est pas rien. Donc moi, j'ai une vraie tendresse pour Frankie Adams, mais les éditions Stock publient ces quatre romans. Et donc, il faut les lire parce que chacun ont L'horloge sans aiguille, qui est son dernier roman le plus ambitieux, qui nous parle du Sud, où elle est née, de ce racisme profondément ancré dans les liens entre hommes et femmes et qui se poursuit. C'est passionnant aussi, L'horloge sans aiguille.
Le plus connu, c'est bien sûr Le cœur est un chasseur solitaire.
Oui, son premier roman d'ailleurs qui lui a valu ce succès inouï où en 1940 elle arrive, elle a 23 ans, elle est en pantalon et chemise d'homme et elle est adulée à New York et à Paris par Henry Miller, par même Klaus Mann qui dit mais c'est incroyable cette femme, par Anaïs Nin, absolument, et puis Reflet dans un œil d'or qui a donné
une belle adaptation
film
au cinéma.
Incroyable avec Marlon Brando et Elizabeth Taylor.
Et donc Frankie Adams, nouvelle traduction ou pas chez Stock?
Alors je ne crois pas que ce soit de nouvelles traduction, mais c'est une réédition. Et puis il y a des postfaces et des préfaces d'écrivains contemporains qui sont tout à fait intéressantes.
Carson McCullers en couverture donc du numéro d'été de Transfuge.
Wounded sparrow, timid and shy, a fallen deer, that's what they call me, but I'm an iron butterfly, a childish liar, a devilish bitch. I can be innocent and charming and suddenly switch, but you've got to understand that I've never belonged. I can be sweet, I can be wise, and I've got every one of you mirrored in my deep, sad eyes. I know where you've been to and who you're afraid to be, 'cause nothing that is human alien to me. I talk to strangers, strangers, strangers. One
Suzanne Vega qui rend elle aussi hommage à Carson McCullers. Carson McCullers donc en couverture de Transfuge. Je rappelle un peu vos coups de cœur, Oriane Jeancourt, l'affaire Emma Till de John Edgar Weidman, c'est chez Gallimard. Pour celle qui est assise dans le noir à m'attendre d'Antonio Lobo Antunes chez Christian Bourgois. Moi, Harold Nivenson de Sam Savage chez Notabilia. L'esthétique de la résistance de Peter Weiss, nouvelle traduction et sérédité aux belles lettres. Et puis bien sûr, Frankie Adams de Carson McCullers, c'est chez Stock. Une année très difficile d'ailleurs pour les libraires. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben d'abord, il faut leur donner la parole. C'est ce que nous allons faire jeudi de cette semaine. Toute une journée spéciale sur France Culture en compagnie des libraires. Moi, je serai à Lyon dans une petite librairie consacrée au polar noir. Alors, quelques dossiers à ne pas rater dans votre numéro de Transfuge, dans un signé Damien Obel sur la littérature ou les livres qui auraient influencé d'une manière ou d'une autre quelqu'un qui n'aime pas lire, c'est-à-dire Donald Trump.
Oui, absolument. En effet, nous n'avons pas de scoop. Donald Trump n'est pas un intellectuel. Mais en revanche, il est entouré, et c'est ça que révèle l'enquête de Damien Obel, d'intellectuels qui, eux, c'est une espèce de nouvelle génération d'intellectuels du néoconservatisme, qui, eux, essayent de penser le trumpisme, de lui donner corps, de lui donner esprit, puisque jusqu'à maintenant, le trumpisme n'était pas grand-chose. Mais si vous voulez, ils établissent une sorte de fusion entre l'extrême droite, c'est-à-dire le suprématisme blanc, il y a véritablement ça chez Trump, une vraie pensée de l'isolationnisme américain, qui est extrêmement forte aussi, un refus, ça on l'a vu, évidemment, une profonde méfiance envers l'écologie. Et puis, quelque chose qui serait aussi proche du Tea Party, qui trouve ses racines dans la religion protestante et dans une certaine idée de l'élection américaine. Et donc, tout ça, c'est ça qui est assez frappant, c'est que ce sont de jeunes intellectuels, de la côte ouest comme de la côte est, qui forment des revues, qui écrivent des livres, bref, qui essayent véritablement de donner une ligne intellectuelle au trumpisme.
Pour l'analyser, pour la combattre ou pour la porter?
Ah non, pas du tout, pour le nourrir. Damien Obel est vraiment allé à la rencontre par téléphone ou par des intellectuels qui sont favorables à Trump et qui sont favorables à la politique de Trump qui est voilà véritablement celle du mal blanc, celle de l'isolationnisme, celle de la profonde xénophobie et puis de la profonde méfiance encore une fois envers l'écologie et voilà.
Oriane Jeancourt, je vous laisse aller vous soigner.
Oui, je suis désolée pour cette voix, je dois être la seule personne en plein été qui est atteinte.
Avant de passer un été studieux, puisque vous allez prendre tous les livres de la rentrée, il y a un événement à attendre particulièrement du côté de Transfuge, de cette rentrée littéraire qui s'annonce.
Ah, il y aura de grands livres, j'ose pas encore vous dire, mais je sais qu'il y a plusieurs grands livres qu'on attend, français, étrangers. Il y a notamment l'autobiographie de Daniel Mandelson, qui est un écrivain qu'on aime beaucoup et qu'on a déjà beaucoup défendu. Donc, à mon avis, ça va être un des événements de la rentrée.
Avec retour de Don DeLillo.
Le retour de Don DeLillo, ça c'est évidemment quelque chose d'inouï. Il y a un Autrichien extraordinaire qui s'appelle Clément Setz, qui n'a pas 40 ans et qui publie un livre de 1000 pages. Complètement fou, une vraie pensée de notre époque, de la technique de notre époque et en même temps ça se passe de la solitude de notre époque. Il y a quelque chose, si vous voulez, entre Foster Wallace et Houellebecq. Wow. Pas mal.
Bon, bah, très bien. Et puis Kamal Daoud, bien sûr, pour la rentrée littéraire avec Zabor. Merci beaucoup, passez un bon été et puis à la rentrée.
À la rentrée avec plaisir.
Émilie, c'est à vous.
Fallen deer, that's what they call me, but I'm an iron butterfly. I know where you've been to, and who you're afraid to be. Cause nothing that is human is alien to me. I talk to strangers, strangers.